Salut, c'est Romaric, bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, dans le cadre de notre mois de janvier consacré aux passions du 7e art, nous vous proposons un nouveau trésor puisé dans nos archives d'Indiana Jones. Trois portraits dans l'envers du décor. Un directeur de cinéma, un cascadeur, une maquilleuse. Voilà de quoi découvrir des portraits tout à fait atypiques et évidemment très intéressants. On se retrouve directement dans les studios. Et le mois prochain, grande surprise, au mois de février, ce sera le mois du jouet au cinéma. On vous en parlera sur la page Facebook. Mais tout de suite, c'est parti pour une heure, trois portraits dans l'envers du décor. Avec une petite précision, le directeur adjoint du pâtisserie Orléans, dont vous entendrez la présentation, c'était Sébastien Lurie à l'époque. Depuis, il est parti pour de nouvelles aventures à Toulouse. On lui transmet nos amitiés, évidemment. Mais ça n'enlève rien à son parcours que vous entendrez aujourd'hui, qui était évidemment déjà à l'époque très instructif. C'est parti pour une heure d'émission.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Graffiti Cinéma.
Bonsoir, donc Thomas va m'aider à interviewer. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Hervé est à la technique, on le remercie. Et évidemment, nos invités, à commencer donc par Sébastien Lurie, directeur adjoint du pâtisserie Orléans. Bonsoir.
Bonsoir.
Un premier midi qu'on va découvrir tout à l'heure. On continue le tour de table. On a été invité au pâté Orléans, maintenant on rend l'appareil. Grégory Lofredo, cascadeur, bonsoir également.
Bonsoir.
Voilà, donc là on vous invite et puis bientôt on mangera chez vous directement, puisque c'est le principe de l'émission. Hein. Quand on est invité chez des gens, après on vient chez eux directement. C'est un peu le projet. Et Stéphane Robert. Dans le domaine du maquillage ici, on parlera également de ce métier très intéressant du cinéma. Alors trois métiers, c'est l'objectif. On est justement là pendant une heure pour parler de ces métiers qui peuvent vous intéresser. Et on a donné comme titre l'envers du décor justement, puisque évidemment ce qui est devant la caméra, on le voit et c'est très joli, c'est le produit fini. Mais il y a également dans le circuit de distribution comme dans le circuit de production énormément de métiers qui sont tout aussi indispensables que ceux qui sont représentés ce soir autour de la table. Et puis pour commencer, je voulais vous proposer tout simplement à vous tous, l'un après l'autre, de tout simplement commencer par dire comment vous avez commencé à travailler, à faire ces métiers emblématiques du cinéma. Alors bon, on peut commencer éventuellement par Sébastien, puisque on a eu l'habitude depuis quelques temps de se côtoyer, donc de parler de ça. Comment on arrive à devenir directeur adjoint donc d'un grand cinéma comme le Pâté Saran Orléans?
Écoute, moi c'était par hasard, enfin en tout cas par hasard que je suis rentré au Pâté Saran, parce que j'ai commencé par Pâté Saran. Je suis venu par hasard sur ce site un soir, alors que d'habitude je vais tout le temps celui du centre-ville, et ce jour-là, au-dessus des caisses, il y avait marqué recherche caissier 35 heures. Voilà, je venais de tomber au chômage, ça faisait pas très longtemps que j'étais sur Orléans, j'avais besoin de manger comme tout le monde. J'ai fait des études dans tout ce qui est milieu du spectacle vivant, donc le cinéma c'est pas très très loin. Je me suis dit, allez, vas-y, banco, tu poses ton CV, et voilà. Et il se trouve que, à l'époque, ma voisine, en fait, était l'une des responsables du cinéma, mais je le savais pas, je l'ai su qu'après, qu'une fois que j'étais là-bas. Mais bon, elle m'avait repéré, du coup, enfin, sur le CV, elle m'a dit, tiens, mais t'as postulé, mais on habite à côté et tout, donc c'est assez marrant. Et j'ai commencé 15 jours après, voilà. Ça, c'est comme ça que je suis arrivé caissier.
C'est déjà pas mal, et puis ça en dit long. On va rebondir de toute façon sur ces parcours-là. Grégory Lofredo, comment on devient cascadeur? Puisque on peut faire des études, un DOG cascadeur, je pense pas, hein, c'est pas encore un diplôme universitaire.
Il y a absolument pas de DOG cascadeur. Alors c'est rigolo parce que j'entends par hasard, et je crois qu'on arrive tous par un heureux hasard sur ces rencontres-là. Pour moi, c'était... en fait, j'ai fait des facs de sport. Mmh. Gymnastique très jeune, beaucoup de kung-fu, et puis en gym on me disait de toute façon tu fais du kung-fu, en kung-fu on me disait tu fais de la gym. et puis un jour à l'entraînement avec l'équipe de France de kung-fu, il y a un de mes potes qui me dit qu'il y a un casting pour le prochain Jet Li.
D'accord.
Et là je lui dis mais j'adorerais pouvoir tourner avec lui, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc il me donne un numéro de téléphone, il me dit voilà, va là-bas, prends ton sabre. C'est vrai que la partie là-bas, je savais pas du tout ce que c'était.
Quand en général, on propose de prendre un sabre.
Ouais, mais c'était
une journée particulière quand même.
Très particulier. Et donc j'y ai été. Puis pour la première fois de ma vie, on m'a dit vas-y, fais ce que tu veux. Et là, j'ai dit ok. Donc je suis parti un peu dans tous les sens. Ils se sont levés, ils m'ont serré la main. À l'époque, c'était l'équipe de Corian, donc qui est vraiment très proche de Jet Li, Jason Statham. Et puis ils m'ont dit qu'on allait bosser ensemble. Et en fait, ça a fait boule de neige.
D'accord.
C'est mon entrée. Elle est vraiment arrivée par la petite porte. Quoi.
C'est vrai qu'on a des invités qu'on a déjà reçus qui de près ou de loin travaillent dans le domaine du cinéma. Ils nous racontaient souvent qu'une fois qu'on était entrés, on se faisait un réseau et qu'il était effectivement avec de la volonté, on pouvait facilement non, mais on pouvait en tout cas avoir les contacts qui permettaient de travailler. Et est-ce que c'est le cas donc du coup?
C'est des rencontres.
C'est des rencontres.
Mais c'est comme de partout. Mm. C'est toujours des rencontres, mais ça va arriver avec ce que toi tu mets en place aussi et tes énergies. Quand Sébastien il nous dit qu'il habitait à côté de... C'est des tout petits signes, mais c'est tout ça qui est mis en place.
Oui, tout à fait.
C'est ingénument. Ouais,
on peut peut-être recentrer un Jet Li, Thomas.
C'est quel film?
C'était Le baiser mortel du dragon, voilà. Le tout premier.
Oui. Thomas, une présentation de Jet Li très rapidement.
Jet Li, c'est
qui est plutôt très connu, Jet Li dans un domaine. Bon, faut être sympa quoi avec lui quoi.
Oui, Jet Li, faut pas trop l'énerver dans ses films. Faut être mesuré.
Il a arrêté depuis, hein, mais c'était, je sais plus, c'était dans quel domaine il était expert, puisqu'on le voit notamment
c'est
dans L'Arme Fatale 4. C'est du wushu.
C'est du wushu.
Voilà, on dit pas de bêtises pour les puristes. Et on continue notre tour de table avec Stéphane Robert. Alors, le domaine du maquillage, comment on y entre directement?
Moi, c'était pas vraiment au hasard, quoique. C'était soit les beaux-arts, soit le cinéma, et j'ai choisi le cinéma. Voilà. Donc, je viens de la peinture et de la sculpture, et finalement, le maquillage n'est pas si éloigné.
Oui, on dirait qu'il y a des passerelles, évidemment.
C'est complètement.
Il n'y a pas de problème.
Ça,
et puis, c'est vrai que ça en dit long. Alors, c'était pas forcément un choix au départ, mais après, ça l'est devenu.
Ça l'est devenu vraiment, ouais.
D'accord.
Oui.
Bon, ouais.
En tout cas, je travaillais sur des plateaux, et c'était ce qui se rapprochait le plus de ce que je savais faire.
D'accord, très bien. Bah, ça en dit des jalons sur quelques années métiers, puis on a envie tout de suite de découvrir la suite, hein, et on va continuer très rapidement. Juste après ce petit son-là, c'est justement Jean Dujardin qui nous en parle.
Excusez-moi, je veux bien patienter, mais moi je suis chez l'entreprise. Hein. Ça fait 10 minutes que j'attends là.
Je termine là.
Ouais.
Un extrait d'I Feel Good qui est encore en salle de mémoire. Enfin, je crois. D'ailleurs, on a un expert à côté. Et on va directement commencer avec lui. On fera un tour de table, évidemment. On fera un ping-pong comme on a l'habitude de faire dans l'émission pour directement reparcourir par vos parcours, de comprendre directement les aspects du cinéma qui peuvent intéresser tous nos auditeurs ce soir. Et puis, on va commencer directement dans l'ordre de présentation. Donc, Sébastien, les fonctions d'un directeur, d'un adjoint d'un cinéma, quelles sont les fonctions principales auxquelles on doit s'attendre quand on doit présenter un métier comme celui-ci?
Il y a plusieurs côtés. Il y a vraiment déjà le côté purement exploitation avec gérer l'exploitation au quotidien. Donc ça va par bien savoir programmer ses salles, bien mettre en avant ses films, bien choisir ses capacités de salle. C'est quelque chose qui est très important. Et après, il y a tout un côté humain, management, avec nous, pour le coup, sur l'ensemble des deux cinémas, on a à peu près entre 40 et 50 personnes qui travaillent en CDI. Donc, il y a toutes ces personnes-là aussi à mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles accueillent dans les meilleures conditions possibles nos clients. Concrètement, c'est ça. Après, il y a plein de choses différentes. L'essentiel, effectivement, c'est la programmation. Il y a aussi beaucoup d'organisation d'avant-première avec équipe de film.
Ouais, on en parle.
Il y a tout un côté événementiel, effectivement, aussi. Il y a toutes des choses qu'on peut pas forcément penser, mais il y a aussi tout un côté location de salles pour les comités d'entreprise, pour des privatisations, pour des lancements de produits. On peut faire plein de choses, en fait, dans les salles de cinéma.
C'est vrai qu'on touche à énormément de compétences.
Voilà, exactement.
Il y a un éventail très, très large.
Effectivement, un éventail très, très large.
Et donc, la fonction, on dirait, parmi toutes celles-ci de base, c'est est-ce que si on peut parler de pré-programmer, finalement, que la programmation, ça reste de la fonction vraiment pilier qui permet
dans tous les cas, pilier, oui. Il y a effectivement la programmation qui se fait donc du coup tous les lundis pour le mercredi qui arrive. Et donc la programmation, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la seule chose dont on n'est pas maître, nous, sur l'agglomération, c'est savoir quel film on met à l'affiche. Ça, on a notre siège qui est à Paris, qui décide en fonction des typologies des salles, quel film doit aller dans quelle salle. Et tout ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est si réellement on croit en un film sur notre site, on peut se battre pour l'avoir en exposant nos arguments, donc c'est pas de problème. Après, on est libre à nous de choisir bien les capacités de salle et tout ça. Et si jamais on veut se battre pour un film, par contre, il faut le faire avant le lundi, on le fait lors de ce qu'on appelle la pré-programmation.
D'accord.
Qui a lieu le jeudi de la semaine précédente, donc le lendemain de la semaine, la nouvelle semaine cinéma.
Il y a une grosse actu le mercredi
pour les
sorties.
Ça fait des délais un peu courts.
Ouais, c'est des tâches qu'on va dire qui sont assez récurrentes. Une fois qu'on maîtrise tous les outils et qu'on maîtrise aussi un petit peu son public et tout ça, c'est des choses qui vont assez rapidement, en fait. C'est pas des choses qui prennent tant de temps que ça.
Et est-ce que vous avez la latitude, par exemple, de dire défendre un film pour le mettre à l'affiche, oui, mais si vous voyez qu'un film vous voulez le faire continuer, j'allais dire, le faire rester assez longtemps. Est-ce que vous avez l'attitude
dans le cinéma? Oui,
bien sûr,
ça peut être un choix aussi, bien sûr. On l'a fait beaucoup l'année dernière sur le film de Nicolas Vanier sur l'école buissonnière.
Oui.
L'école buissonnière, voilà, que moi j'ai trouvé très réussi en termes d'image et tout. On connaît bien maintenant Nicolas Vanier. Et effectivement, vu que c'est un film purement d'ici, on l'a gardé, je crois, du mois de novembre jusqu'aux vacances de février qui ont suivi derrière pour pouvoir on a fait en sorte de garder 4 mois pour le présenter à un maximum de personnes. Et c'est un des plus gros cartons de l'année dernière.
Comment se fait, alors j'ai une autre question, comment se fait le choix des salles finalement? Est-ce que sur des films qui ne sont pas encore sortis, pas des films que vous pouvez changer de salle en cours de semaine?
Alors, on a des estimations qui viennent de notre siège, après on a nos propres estimations à nous. Sur des semaines, on va dire, fortes, où il y a une grosse actu, par exemple, là on sait qu'on a le Grand Bain qui sort, sort demain. Grand Bain, forcément, il va aller dans une grosse salle, gros casting, gros potentiel box-office. Quand on a des gros blockbusters, genre mettons les Animaux Fantastiques, on sait très bien que ça va être dans les plus grosses salles. Après, quand on est sur des semaines, on va dire, avec des sorties moins importantes, on peut se permettre de dire qu'on va mettre tel film dans telle salle, dans une salle un peu plus importante, parce que visuellement, ça va avoir le coup d'être vu sur un grand écran, même si au final il n'y aura pas forcément le public en face, mais parce qu'on sait que dans tous les cas, même si on a mis un autre film, on n'aurait pas forcément rempli la salle. Ça, c'est vraiment sur les périodes creuses, notamment par exemple septembre, c'est une période où il n'y a pas énormément de grosses sorties de films, donc on peut se permettre comme ça de changer et de proposer visuellement ce qu'il y aura de mieux pour les spectateurs. Après, il faut aussi que sur les grosses semaines, on pense aussi un petit peu en termes de business. C'est parce qu'on est là aussi pour faire des entrées.
D'exploiter au mieux les films et de permettre en tout cas d'avoir les meilleures retombées pour les films dans les conditions dans lesquelles ils sont programmés.
Exactement.
Alors on va faire un petit extrait musical puisque les invités sont venus avec leurs extraits musicaux, puis on va écouter deux extraits de bande son. C'est une sélection donc de Sébastien. On va rebondir dessus justement puisque ça nous permettra de rebondir notamment sur les Animaux Fantastiques par exemple, puisque il y a deux extraits de bande son très célèbres que vous allez entendre. On se retrouve dans une petite minute.
Cinéaction.
Alors, ça fait pas mal réagir, les bandes son autour de la table. J'espère que c'est pareil pour vous en écoutant notre émission. Donc, vous écoutez Graffiti Cinéma. On a écouté deux extraits de bandes son sélectionnés par Sébastien Lurie, notre invité, directeur adjoint du Pâté Sarre en Orléans. Alors, je vous ai demandé quelques sons aux invités pour justement illustrer notre émission. Pourquoi ces bandes son ressortent? Est-ce qu'il y a le côté exploitant ou le côté cinéphile qui ressort pour ces films-là?
Il y a les deux. Après, Harry Potter, c'est vraiment moi côté cœur parce que j'ai grandi avec cette saga au cinéma. C'est une saga qui m'a fait rêver dès le premier épisode. C'est une saga que je connaissais pas en bouquin et qui, dès le premier épisode, m'a fait acheter tous les livres. Par la suite, m'a fait acheter tous les livres. Donc, j'adore quand moi le cinéma me procure ça. Après, c'est une vraie valeur sûre. Moi, je trouve que c'est des films très qualitatifs, tous, visuellement parlant. Bon, après, les histoires, elles viennent des bouquins, il n'y a pas à dire. Mais après, c'est tellement bien mis en scène. Il y en a certaines reproductions, notamment La Coupe de Feu, qui est vraiment hyper fidèle au bouquin. Et moi, je me voyais limite lire devant l'écran. C'était assez vivre des émotions comme ça au cinéma. C'est aussi pour ça qu'on va au cinéma. Donc voilà. Et après, Amélie Poulain, parce que c'est... je crois que c'est un des films qui a bercé vraiment ma fin d'adolescence, qui m'a vraiment touché, tant au niveau des couleurs qu'au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique. Il y a tout. Il y a la BO de Yann Tiersen, il y a tout.
C'est vrai que
dans ce film-là, il y a vraiment tout.
C'est emblématique. Dès les trois premières notes autour de la table, on réagit. Évidemment, moi je les ai reconnus puisque je les ai programmés. Mais c'est assez emblématique en tout cas.
Voilà, moi c'est du cinéma qui me procure des émotions et j'aime comme le cinéma me procure des émotions. Après, il y en a plein des films comme ça. C'est difficile de faire un choix, mais voilà.
Alors, est-ce qu'il y a... Bon, on sait que quand on est cinéphile, on a des choix qui sont parfois très, très, très... qui peuvent être parfois pointus en fonction de ces choix, mais est-ce que le conflit qui est quasiment perpétuel entre critique et public, quand on est exploitant, on arrive à concilier les deux? C'est-à-dire qu'on a des beaux succès publics pour des films pour lesquels on a eu un coup de cœur, et parfois on s'aperçoit qu'il y a un écart entre les films sur lesquels on aurait pu voir un gros potentiel et qui ne marche pas forcément.
Ah, clairement. Nous, des fois, on a certains films qui ne fonctionnent pas, on ne comprend pas pourquoi. Après, c'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup, malgré tout, des films. Donc, on sait enfin, j'ose espérer qu'on sait après.
Ou est-ce qu'on sent ce qui va fonctionner ou pas?
Voilà, ce qui va fonctionner ou pas. Des fois, on se trompe. Moi, là, notamment, j'ai mis une bonne pièce sur le jeu qui vient de sortir la semaine dernière.
Fred Cavallé,
ouais. Fred Cavallé, que j'ai trouvé très réussi, très drôle, très rythmé. Et qui au final va faire une bonne première semaine, mais moins que ce que moi j'aurais pensé. Et moi je crois beaucoup là cette année, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, le prochain film de Cuaron qui s'appelle Mauvaise Herbe. Avec Dussolier et Catherine Deneuve qui va sortir le 21 novembre, et ça c'est un bijou, c'est un petit bijou. Moi depuis Intouchable, j'ai pas ressenti autant d'émotion au cinéma. Vraiment.
Et il sort quand celui-ci?
Il sort le 21 novembre.
Le 21 novembre. Ouais, ouais.
Alors, je fais de la pub parce qu'il est venu ici. C'est vraiment un mec adorable en plus, très drôle. Et son film vraiment mérite d'être vu. Voilà. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année.
Et combien de temps avant, au mieux, on peut voir les films pour anticiper ces goûts-là?
Ça dépend. D'accord. Ça dépend en fait. Moi, le Grand Bain, j'ai eu l'occasion de le voir. Les premières projections ont lieu à Cannes, donc sachant qu'il va sortir au mois d'octobre. Moi, j'ai pu le voir tout début juin à la convention Studio Canal à Paris. Donc après, ça dépend en fait un peu des distributeurs. Certains croient vraiment à leur film. Je pense qu'il y a un énorme potentiel et l'idée, c'est de faire beaucoup de bouche à oreille autour de ça, donc le présenter le plus tôt possible.
D'accord.
Ça, c'est quand ils sont très 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 confiants sur les films. Et en règle générale, les films dont on entend moins parler, qui sortent à la dernière minute. C'est, voilà, on sait qu'ils ont moins confiance dans ce genre de choses-là.
Généralement, c'est un phénomène qui arrive aussi, il n'est pas montré aux journalistes dans les projections presse.
Exactement.
Et souvent, quand c'est pas montré avant, on
craint.
On craint, oui, voilà.
Ouais. Mais ça a été le cas pour Solo.
Oui, d'accord. Ouais.
Voilà. Après, je suis un des rares qui a vraiment apprécié Solo.
Moi, j'adore, moi aussi.
Moi, Solo, j'ai trouvé ça super.
Il y en a 4 qui l'ont aimé en France. Ils sont tous autour de la table.
Incroyable. Le karma.
C'est incroyable. Non, mais c'est vrai qu'il y avait pour ce film-là, il y a eu une production particulièrement, enfin, on va dire une post-production particulièrement erratique qui fait que le film a souffert en salle après.
Et tu me parlais justement de l'ambivalence entre le succès critique et le succès spectateur. Là, il s'est fait démonter par la critique et nous, les spectateurs, ont quand même, dans l'ensemble, apprécié le film.
Oui, et puis il y avait des rumeurs de tournage. En tout cas, il a été moins bien promu, en tout cas, ce film-là, que les précédents. Et on sentait qu'il y avait des petites divergences au sein de l'écurie Disney, en tout cas, ce qui laissait apparaître. Et alors qu'effectivement, ce film a concentré les critiques qui n'étaient pas forcément tout le temps objectives, pour le dire. Bon, après, ce n'est pas du film à réessayer et Disney est rentré dans son investissement.
Tu sais, je sais pas, on fait un peu d'un réessayer, mais ce n'est pas non plus nous, on est sur le grand public.
Voilà, exactement. Voilà. Après, cette notion de grand public, on peut justement en parler, puisque c'est directement lié au début du box-office aux États-Unis. Il y a même la pratique le blockbuster aujourd'hui qu'on connaît tel qu'il l'est et qui tire tous les films vers le haut, puisqu'il y a une logique de redistribution également dans les circuits de production. Ce blockbuster, il vient également de l'expression, on en avait parlé quand on avait fait notre émission de rentrée justement au pâté, du block booking, c'est-à-dire le principe pour les programmateurs, pour les producteurs de films, d'imposer 10 films pour avoir un film vedette. Est-ce que cette pratique-là, est-ce que cette pratique-là de quand on veut un film vedette, les producteurs de films, les studios en imposent 5 ou 6 autres derrière, elle existe encore concrètement?
Bah, en tout cas, nous, à notre niveau, on n'y est pas confrontés. Je sais pas réellement. Là, pour le coup, tu me poses une colle.
Non, parce que c'est vrai qu'il y avait cette pratique-là. Ça date des années 30. C'est-à-dire qu'il y avait des circuits de grandes salles où, quand on voulait le film vedette, on donnait 10 films en général de série B.
C'est le service de programmation directement parisien qui gère ça. C'est vrai que la programmation, je ne vais pas dire que c'est un monde à part, mais c'est un peu un microcosme, effectivement, dans tout ce milieu d'exploitation. C'est de eux que découlent énormément de choses. Mais c'est vrai qu'ils sont un service, ils sont pas tant que ça, je crois qu'ils sont 5 ou 6 au siège à Paris de programmation. C'est vrai, ils travaillent vraiment en autarcie, mais donc c'est certainement eux qui sont confrontés.
D'accord.
Mais il y a des négociations, par contre, toutes les semaines.
C'est bien d'en parler parce qu'effectivement, c'est intéressant découvrir directement les arcanes, comment on peut programmer un film et comment il peut directement vivre également.
Et ce qu'on négocie pas mal aussi, c'est en gros le nombre de copies sur lesquelles on va prendre dans le réseau, combien de salles on va le diffuser, tout ça. C'est autant d'éléments qui nous servent à la négociation.
D'accord. Alors après, le nombre de copies, ça se prépare, j'imagine, très 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 en amont.
Oui, en règle générale, ils le savent. De toute façon, même quand ils produisent un film, déjà à la base, ils savent dès le scénario à peu près sur combien de copies ça va sortir derrière. Et tu prends en gros ton film, tu prends le casting qui est prévu, qui est confirmé. Déjà rien qu'avec ça, t'as une idée de quel volume de copies tu sors derrière.
D'accord.
Après, le tout est de le négocier auprès des chaînes d'exploitation.
Ça en dit long, j'espère que ça vous intéresse autant que nous. En tout cas, nous, on écoute tout, on prend des notes. J'en ai loupé quelques-unes, mais on aura l'enregistrement de l'émission et puis on réécoutera le podcast. Alors, on s'écoute un petit son, un petit morceau. On va se retrouver juste après. C'est encore une fois une sélection de Sébastien. On va en parler juste après. Donc, c'est My Ticket Home, Through the Needle's Eye. Je le dis avec l'accent en plus.
LV2.
C'est bon. On est de retour dans les studios, vous écoutez Graffiti Cinéma, et on a écouté un son My Ticket Home, Through the Needle Eyes, et c'est une sélection de Sébastien. Alors on peut en parler rapidement, il y a forcément des passerelles avec une activité secondaire.
Ouais, c'est mon côté caché. Mais voilà, c'est des choses que j'aime bien faire découvrir aux gens que je rencontre et tout ça, parce que on connaît le côté assez sérieux, côté cinéma, mais moi j'aime bien connaître les gens un peu plus loin de ça que ça. Et côté ça, ouais, moi ça fait maintenant 15 ans que je suis chanteur de métal. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi. Là, je voulais faire découvrir un groupe qui, pour moi, est très prometteur. Ça fait 2 ans, moi, que je les connais. Ils ont sorti un album il y a 1 an qui est super. Et là, c'est un single qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, qui annonce le prochain album, j'espère. Et voilà.
Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, on mettra les références sur notre page Facebook. On aime beaucoup autour de la table, Thomas. T'as pris le titre par cœur, t'as pris les références.
Ah, mais je sais que ma sœur, qui est très très fan de métal, mon avis, elle connaît déjà.
Bon, bisous à ma sœur. Ouais, alors, on va faire le lien entre nos deux. Nos invités, puisqu'il y a une passerelle entre nos invités en préparant l'émission, on s'en est aperçu, c'est qu'on pouvait faire avec le flic de Belleville. On va écouter un petit son, un petit teaser de 30 secondes, et puis on va directement après enchaîner avec les cascades qui nous intéressent particulièrement, surtout quand on n'est pas expert en cascade comme nous tous, hein, évidemment, et quand on se fait des entorses à chaque
fois les boulets, on en fait mal. Quoi, voilà.
C'est des cascades involontaires
en général. On essaie de se rattraper.
C'est des accidents.
Quand ouais, on épouffe voilà. Le cascadeur, et ben, si vous êtes comme nous, vous allez avoir un pro avec nous qui va directement nous former. On écoute un petit son, puis on se retrouve juste après.
C'est beau le français ?
Oui, de Belleville.
Vous connaissez Miami ?
Non.
Vous allez adorer. Donc, vous parlez anglais ?
Mieux que ça ? Je parle le flic américain. I'm too old for this shit.
Ok.
Danny Glover ? Il est dans l'âme fatale.
C'est formidable.
J'attends, you're looking for.
And the plane flight, you have access to it ?
Flight plan.
Yes, merci. The flight.
The flight plan, Robin.
Yes, please.
C'est ce que j'avais dit.
Alors, on est de retour dans les studios, on parle du flic de Belleville. Alors, il est sorti mercredi.
Il est sorti
mercredi. Je débarque. Alors, vous pouvez me dire, prendre les dates des films aussi, c'est un petit peu notre boulot en général.
Bien joué
sur ce coup-là, bien vu. Alors, on enchaîne donc directement avec notre cascadeur Grégory Lefredo. Alors, pourquoi il y a une passerelle? Puisque justement, on avait parlé de la programmation des avant-premières et c'était été compliqué d'avoir Omar Sy pour le flic de Belleville.
Effectivement.
Et Grégory a travaillé sur le tournage.
Ouais, en fait, la petite histoire pourquoi c'était compliqué, on a eu le film Love Addict, avec Kev Adams au mois d'avril. C'est le même distributeur, c'est Metropolitan, qui à l'époque nous avait parlé qu'ils allaient monter quelque chose avec Omar Sy, en tournée et tout. Ça s'est très bien passé, l'avenue là, de Kev sur Orléans, ils pensaient à nous. Et on les a relancés, puis au fur et à mesure, je crois que l'agenda d'Omar Sy s'est rempli, et malheureusement, on n'a pas pu l'avoir.
D'accord, bon, voilà. Ça peut arriver, il y a des arbitrages comme ça, mais il y a quand même des superbes avant-premières au pâté.
Du coup, pour Omar Sy, c'était non.
Il a osé. Non, mais on essayait de pas la faire. Tout le monde l'a fait. Toutes les France Bleues de France l'ont fait. Et il l'a fait également. C'est ça, c'est Thomas.
À votre service.
Alors, le flic de Belleville, justement, on peut raconter quelques anecdotes de tournage. Quelles cascades on peut avoir à chorégraphier et mettre en scène, justement, ou auxquelles on doit participer quand on est sur ce type de tournage?
Alors, en France ou à l'étranger?
Ah, bah les deux.
D'accord.
On prend les deux.
Parce que en France, on n'est pas du tout d'une culture d'action.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est la dernière chose qu'on va faire. On le voit au générique, on est souvent très loin. Et pourtant, il y a besoin pour, ne serait-ce que pour mettre une gifle, ne serait-ce que pour tomber sans se faire trop mal, et pour éviter les bleus. Bah voilà, il y a plein de petites astuces. Donc,
c'est intéressant, hein, parce que nous, déjà, pour les bleus, moi, je me prépare, hein, les petites astuces. Alors, il y a peut-être, on peut remonter, Lino Ventura, quand il était de son ancienne carrière de catcheur, il expliquait comment prendre des gifles sur les tournages.
Exactement.
Il y a ce petit truc-là.
Ouais.
Alors, comment on peut le citer, ça, par exemple?
Bah, on peut citer aussi Belmondo, c'est-à-dire qu'il faisait lui aussi ses cascades. En fait, c'est de faire des actions pour qu'elles paraissent véritable le plus proche de la réalité possible, et en essayant de le refaire un nombre de fois illimité.
D'accord.
Parce que quelquefois on a besoin de les refaire, et pour ça il faut pas se faire mal, pour ça il faut être en accord avec les axes de caméra. Donc du coup ça va demander vraiment des compétences que les Chinois ont depuis des générations. On voit les Jackie Chan depuis toujours, ils les ont. C'est-à-dire que le caméraman, on les voit bouger, ils bougent avec les acteurs. Les Américains, ils ont une conscience parfaite, ils savent qu'il y a besoin d'action pour vendre, et que ça, c'est pas obligatoirement ce qui va faire vibrer le film, mais c'est ce qui va permettre aux gens d'avoir envie d'aller s'échapper et d'aller rêver à ce niveau-là. Et c'est vrai que nous, en France, on est un petit peu timide par rapport à ça. Et donc, du coup, la place, elle n'est jamais évidente.
D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que déjà on comprend les différentes cultures. Alors après on est dans le cinéma d'action, mais est-ce qu'il y a vraiment il y a d'autres types de d'autres genres de films immémoriaux qui utilisent des cascadeurs après, mais c'est principalement effectivement dans ces types de films là. Alors par exemple sur le flic de Belleville, qu'est-ce qu'on a pu vous demander de faire comme cascade?
Essentiellement c'était des bagarres.
D'accord.
Il y a eu un certain nombre de bagarres. Il y en a une au début, une dans l'eau qui était assez intéressante à faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de contraintes, et après une grosse bagarre finale. Après tout ce qui est fusillade et tout ce qui est annexe, ça reste des cascades, mais souvent on avait des stunt coordinateurs dans chaque pays avec qui on pouvait faire travailler des gens là-bas. Donc on supervisait, mais on n'est pas spécialement, responsable d'eux en fait. On donne des lignes de conduite et après on laisse faire. Les personnes de chaque région.
D'accord.
Mais on supervise. Et donc là, c'était essentiellement pour des bagarres.
C'est vrai que cascadeur, on imagine quand on est des clichés et que directement, on réfléchit pas trop, on se dirait que tiens, cascadeur, c'est un métier de casse-cou. Mais c'est justement tout le contraire. C'est très, très, très axé sur la sécurité, évidemment.
Alors, oui, parce que c'est la différence de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une personne qui va tomber, elle va se faire mal, c'est un accident. Une cascade qui est réussie, bah, c'est une cascade. Quand elle est loupée, c'est un accident. Donc du coup, le but du jeu, c'est d'essayer de la refaire un nombre de fois assez grand, avec le maximum de sécurité possible, tout en sachant qu'il y a des facteurs qu'on ne va pas maîtriser. Mais voilà, une cascade, c'est on est capable de la refaire, se relever, prétendre qu'on a eu mal, on joue, et puis on y retourne s'il faut y retourner.
Est-ce que vous avez déjà été confronté, ou vous avez déjà entendu parler de cinéastes ou d'équipes techniques qui demandaient des cascades infaisables et pour lesquelles on pouvait avoir un regard, le regard du cascadeur pour la modifier ou la rendre un peu plus
exactement.
Dynamique?
Mais souvent, ils ont une idée en tête, les réalisateurs ou même les scénaristes. Et après, nous, on arrive avec nos bagages pour essayer d'aller le plus proche possible de leur vision. En fait, on est là pour sublimer les choses. On est vraiment là, enfin, c'est vraiment un travail d'équipe. Et quand ça marche comme ça, aux États-Unis, ça marche beaucoup comme ça, où en fait, ils ont pleine conscience que les cascadeurs ne vont pas prendre le pouvoir, mais au contraire, vont renforcer. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les scènes d'action. Enfin, ils sont avec un réalisateur, deuxième équipe, qui à 90%, 99% du temps, sont un ancien cascadeur de base, qui petit à petit est monté, aime l'action, et envie de donner le témoin jusque-là pour que le film soit au mieux, quoi.
Réalisateur deuxième équipe, c'est très intéressant, hein. En général, on connaît évidemment ceux qui mettent leur grand nom tout en haut de l'affiche. Mais les réalisateurs deuxième équipe, c'est souvent une école pour après devenir réalisateur à part entière. Et c'est ceux qui souvent font en gros les scènes qui demandent le moins de, enfin, je dirais personnalité, mais en tout cas celles qui vont demander le plus d'action et qui vont permettre au réalisateur principal de se décharger sur des scènes où il y aura plus de mise en scène, par exemple.
Exactement.
Directement.
Et les personnes qui font le pont vers la réalisation, c'est les personnes qui ont tout compris en fait à ce que voulait le réalisateur. Et souvent, ceux qui peuvent faire le pont, c'est ceux qui sont déjà réalisateurs. Pour le cas, on est quatre donc dans la boîte, c'est Human Stunt. Un des quatre, un petit peu le fer de lance, celui qui est parti un petit peu à l'étranger, il s'appelle Olivier Schneider. Et pour lui, en fait, on a chacun de nos spécialités, on a des cercles de compétences. Lui, depuis toujours, c'est-à-dire qu'on avait besoin de faire de mettre dans le cadre quelque chose, il trouvait toujours le cadre. Il avait cette faculté-là. Et après, quand il discutait avec le réalisateur, il comprenait tout de suite ce que voulait le réalisateur. C'est-à-dire que c'est déjà là, en fait. C'est pas encore sublimé, mais c'est déjà là. Donc, on a tous ce potentiel-là. Et on va voir, il y en a qui vont être plus à même de parler aux comédiens, de leur expliquer, d'autres plus techniciens, d'autres plus cascadeurs, et qui vont voir comment atteindre certaines choses qui pourraient être impossibles, mais ils vont l'amener à devenir possible. Voilà, on a vraiment... Et dans l'équipe, on a tous nos petits secteurs où on est intercroisés et où on se renforce, en fait.
D'accord, bah c'est super intéressant. On écoute ça religieusement, même si c'est une émission non spirituelle. on va garder quelques questions. On va s'écouter justement les sons de sélection de Grégory, puisqu'il y a des films cultes pour nous tous, hein, autour de la table. Mais là, évidemment, nos invités ont fait une petite sélection. On va s'écouter les sons. On va sauter un petit peu partout, puisqu'il y a pas mal de bruit, et puis également des films qui demandent évidemment beaucoup de cascadeurs.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Cool, Roger, cool. Hein? Oh, ne touche à rien, fais pas dans ton froid. 9 minutes et 7 secondes. Tu sais ce qu'on devrait faire? Tu sais ce qu'on devrait faire?
Quoi?
Je pense qu'on a 8 minutes et 42 secondes. On peut très bien remonter, attendre la brigade anti-bombe et se taper à Capuchin. La brigade anti-bombe n'arrive jamais à temps, tu le sais bien. Il reste 8 minutes et 31 secondes, Roger, s'il te plaît. Oublions la Capuchin, tu sais ce qu'ils vont nous dire? Oh oui, ils vont nous dire Rex Murtoff, putain, foutez le gars. C'est vrai, mais avant, ils auront dit faut qu'on mette une fille bleue, c'est ce que je vais faire.
Et on est de retour dans les studios, on écoute Graffiti Cinéma et on est en compagnie de nos invités, du maquillage, des cascades et de la direction, de la programmation de films, de l'exploitation. On a à peu près tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour découvrir l'envers du décor du cinéma. C'est la thématique cette semaine et on a plein de questions pour nos invités et on est avec Grégory Lefredo, on parle de cascades. Thomas, t'avais des questions, je te sentais trépigner pendant les morceaux.
Je trépigne, oui.
Alors on a entendu Matrix et L'Arme Fatale parce que c'est des films qui sont parmi les cultes pour notre invité.
Oh, bah, oui.
On va en parler de toute façon.
Alors moi j'ai une question que... Il m'a été suggéré par mon fils. Il m'a dit, demande-lui si c'est déjà fait mal et s'il a plein de cicatrices.
Et si je veux les montrer.
Alors, c'est pas très radiophonique de les montrer, mais s'il veut nous les montrer, oui.
Alors, j'ai plein de cicatrices, mais d'avant. Parce qu'après, j'ai appris qu'on pouvait mettre des protections. Donc, il y a moins de cicatrices. Rien de cassé jusque-là. Voilà. On a eu des...
De rien, est-ce qu'il y a des accidents plutôt graves qui,
ça arrive,
qui marquent et,
Ça arrive, des accidents. Bah après, c'est ce qu'on va pas maîtriser. Mais non, généralement, on s'en sort quand même indemne. On a quand même cette notion d'aller... En fait, ce qui fait la différence dans un accident et une cascade, la cascade, on y va. L'accident, quelquefois, on refuse la chute. Et quand on va se tordre une cheville, c'est parce qu'on veut pas y aller qu'on se fait mal, qu'on essaie de se retenir ou qu'on a peur. Quand on y va, on se fait moins mal.
Est-ce que la répétition aussi, ça aide... Enfin, est-ce que ça aide pas, justement, à... Est-ce qu'on sait s'arrêter au bon moment, pour le coup, quand on dit, quand le réalisateur dit, bah, il faut la refaire, au bout de 5, 6, 7, 8 fois, est-ce qu'on se dit pas, bon.
Alors, c'est drôle parce que j'ai une anecdote sur ça. On était sur un film.
On achète.
donc, il y avait une vitre à traverser. Première prise, les vitres, en fait, quand c'est du sécurité, souvent ça coupe. Ça fait des micro-coupures, mais on est plein de sang.
Sécurite, on peut peut-être en parler.
C'est des sécurites ou du verre de... Le sécurite, c'est les verres avec détonation qui vont exploser, comme dans les voitures.
Voilà,
ça fait des petits carrés.
Et c'est pas fait pour... Enfin, c'est fait pour... C'est spécialisé au tournage, non?
Ah, pas spécialement. Mais en fait, ça fait pas des gros morceaux de verre. D'accord. Qu'on peut se planter dans les artères.
Voilà,
en fait.
Donc voilà, c'est voilà. Pour éviter.
Après, il y a du verre chirurgical et il y a du sucre aussi. D'accord. Le verre chirurgical, là, c'est ce qu'on avait sur le tournage. Première prise, je sors, un petit peu coupé à différents endroits sur la tête. Je fais OK. On fait chaque prise, les coudières transpercées. Enfin bon, ça, c'était bien. Septième prise, je veux voir le réalisateur, le responsable. Je lui dis, vous savez, au bout d'un moment, on se met en danger, mais pourquoi on le refait? C'était mon premier film. Hein. Mais pour qu'on le refait, quoi. Est-ce qu'on a quelque chose à faire de différent ou quoi? Non, encore une. Ok. Huitième prise, le cascadeur qui était avec moi tourne la tête. 8 points de suture au niveau du nez. Donc oui, là, le régleur de cascade va avoir la responsabilité de dire stop à un moment. Mm. Quand on sent pas les choses... si on n'a fait aucune cascade dans sa vie, on arrive à ce poste-là, on n'a pas notion des gens. Si on prend soin des gens, qu'on a déjà pris des coups, qu'on sait ce que ça fait. À un moment, on va avoir cette notion un peu bienveillante, et c'est pour ça que ça reste spirituel aussi, parce qu'on est obligé d'avoir quelque part ce don de soi et cette bienveillance par rapport à l'autre, à dire là, il est en danger, là, il n'en peut plus. Si le comédien, on ne voit pas qu'à la cinquième prise, il n'a plus de flotte, il est au soleil, il n'en peut plus, et il ne peut pas donner les derniers coups, et que là, il pose sur une cheville ou un genou, alors sur une chute, bien plus que ça, et bien nous, on est responsable, donc on doit voir tout ça.
D'accord, oui, c'est intéressant. Puis de toute façon, on parlait des filiations, notamment avec Jean-Paul Belmondo qui réclamait sur beaucoup de tournages de faire ses propres cascades. On peut même remonter jusqu'à Steve McQueen pour le cinéma américain qui avait fait, on va dire, entre guillemets, un énorme caprice sur le tournage de Bullitt, mais parce que justement, il y avait des assureurs qui voulaient pas qu'ils prennent de risques.
Mais il y a des différences entre les personnes qui vont vouloir faire, et Jean-Paul Belmondo le faisait, mais de façon entourée. C'est-à-dire qu'il y avait un cascadeur avant lui qui testait les choses et qui lui disait maintenant tu peux y aller.
D'accord.
Ce qui fait qu'il y avait cette intelligence-là d'équipe. Il s'est toujours super bien entouré. Et c'est pour ça que ça faisait. Omar, sur le flic de Belleville, il a fait toutes ses bastons et les deux grosses chutes où là il y avait vraiment danger, il les a pas fait, mais il s'est entraîné. Enfin, je veux dire, il arrivait au début de la répétition, il laissait son portable, toutes ses affaires dans la voiture. Il arrivait, il bossait jusqu'à la dernière seconde, il transpirait. enfin, il s'est donné pour le truc. Donc, voilà, on tombe sur des comédiens qui sont capables et qu'on va pouvoir amener au maximum, quoi.
Ah, du coup, après, t'es trop fatigué pour venir à Orléans. C'est quand même peu galère.
Alors, pour l'avoir épuisé.
Alors, pour avoir travaillé pas mal avec lui, c'est quand même une personne qui est plus de choses. Après, je pense qu'il faut qu'il travaille. Je sais pas quand, en fait, parce qu'il fait tellement de trucs à différents endroits avec les décalages et tout. Quelquefois, on s'envoie des SMS ou des textos. Enfin, je veux dire, il est toujours à fond. D'accord. Il s'arrête jamais, donc il est.
Voilà. Ils sont tous comme ça. Enfin, en tout cas, les plus populaires d'entre eux sont tous comme ça. C'est des dingues de travail.
Mais c'est des bosseurs.
Ils s'arrêtent jamais.
Mais c'est pour ça.
Ils s'arrêtent jamais. Ils ont 15 000 projets, tous. Enfin, à chaque fois, ils nous racontent, je suis sur ça, je suis sur un spectacle. Je suis en train de faire deux autres films, machin. Enfin, c'est hallucinant. Ouais. Ils ont des vies dingues.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ça doit être dur de tenir un agenda. Moi, déjà que j'oublie pas mal de trucs. Thomas, avant qu'on passe à la dernière partie.
J'avais une autre question. Est-ce que ça t'est arrivé de voir le résultat final, d'être déçu, sans citer de film parce que ça serait
bien
pas,
sûr, c'est comme tout
mais,
à l'heure.
Mais ça met pas un petit coup en se disant on s'est investi beaucoup et ça rend peut-être pas autant justice
que
je le voudrais.
Le montage par exemple, ouais. Qui peut arriver.
Mais c'est exact. En fait, c'est malheureusement en France c'est tout le temps ça. C'est-à-dire que d'accord. Chaque poste, c'est très rare de trouver des personnes qui vont faire les ponts entre les postes.
Il y a pas de coordination, d'accord.
Bah si, ou mais peut... en fait ça partage pas. D'accord. C'est des guerres un peu de pouvoir quelque part un petit peu cachées.
D'accord.
Ou alors peut-être des peurs, ou alors peut-être je sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça m'est arrivé un nombre de fois illimité d'avoir des chorégraphies où on avait vraiment travaillé dans l'esprit du film avec ce que voulait le réalisateur ou la réalisatrice, et à l'arrivée au montage, en fait, c'est monté dans le désordre, le puzzle il marche pas en fait, et la sauce elle prend pas, et on se dit mais mince, c'est un problème de montage. Et on pourrait intervenir jusque là, c'est-à-dire que si on nous demandait, on pourrait aller aider, mais sans prendre obligatoirement trop de place, mais dire là c'est ça
jusqu'à l'étape du montage.
Et en fait c'est ce qu'ils ont fait sur l'Empereur de Paris là. Jean-François Richer, qui est vraiment un sacré monsieur, un réalisateur, pour moi, de talent. C'est-à-dire que chaque journée, j'apprenais un truc de plus. Et il me demandait, comme s'il me demandait encore plus à chaque fois. Et en fait, il m'a invité au montage. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on t'invite au montage, c'est que la personne, elle est sûre de son film.
Oui.
Elle n'a pas peur qu'on te dise, mais non, là, ça ne marche pas, non, là, ça ne passe pas. Et donc, déjà, le monteur était très bon. Et en plus de ça, j'ai vu toutes les séquences du film. J'étais pris d'émotion à chaque coup. Et le seul petit truc que je leur ai dit, c'est là, regardez, le point va dépasser. Ça, on le voit, enlevez-le, retirez une image. Et là, ils étaient debout. Waouh, c'est super. Des fois, ça joue juste à ça,
oui, c'est vrai,
pour pas que ça marche.
C'est humain, quasiment du subconscient. Mmh. Mais
et on se dit, c'était bizarre. Et quand c'est monté dans le désordre, malheureusement... Alors que si on bossait en équipe, et c'est ce qu'ont compris les Américains sur Fast and Furious, notre équipe, donc les trois, Patrick, Olivier et Yves, ils ont fait toutes les bagarres. Ils ont gagné un World Taurus, un award pour ça. Et ils lui ont envoyé les rushs. Olivier les montait, renvoyait les rushs. Et en fait, c'est pour ça que ça déchire. La personne qui fait ça, elle aime ça. Donc, c'est pas. Après, ils vont remettre le jeu, ils vont remettre les trucs, mais quelquefois, l'action, elle va être au détriment de la lumière. Ou au détriment de. Il y avait un mauvais raccord. Et on est battu quelquefois en France juste pour ça.
Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est une limite culturelle, ce qu'on est en train d'évoquer sur la notion de l'entertainment à l'américaine. Et puis, justement, juste avant de parler de maquillage, on va pouvoir parler de vos vidéos, puisque vous avez un site, donc grégorylofredo.com, si je dis pas de bêtises, sur lequel on trouve des démonstrations. Et on peut mettre en fond, Hervé, s'il te plaît, ce petit son là que j'ai prévu pour parler justement. On peut faire des stages également pour découvrir ce métier-là et également découvrir cet aspect de la profession. D'ailleurs, ce qui intéresse beaucoup Ulysse, apparemment, le fils de Thomas.
Il est dans les starting blocks là depuis que je lui ai montré ça.
Alors, de quoi s'agit-il en fait? Est-ce qu'on saute partout? On se fait mal? C'est cool. Non, j'imagine non, évidemment.
Non, on apprend justement à faire. Voilà. Des actions sans se blesser. Mmh. Et en fait, l'objectif, c'est même des combats, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de spiritualité. C'est un pont vers ça, parce que dans tout ce qu'on va travailler, tous les combats sont une prise de pouvoir sur un autre.
Mmh. Oui.
C'est-à-dire qu'on doit être plus fort que l'autre. Là, si on n'est pas en osmose, si on ne travaille pas ensemble, ça ne peut pas marcher.
Ouais, d'où l'idée de chorégraphie qu'on évoquait.
Exactement.
Tout à l'heure,
Donc du coup, le cascadeur, il est là pour sublimer l'acteur à chaque fois, soit en termes de doublure, soit en termes en face... du comédien, pour pouvoir faire des chutes, pour pouvoir amplifier les mouvements. Et donc, si ça travaille vraiment ensemble, bah, ça devient une osmose. Donc, on va apprendre à travailler avec l'autre. On va apprendre à chuter sans se faire mal. Comment chuter sans se faire trop de bobos. On va apprendre à voler. Mmh. Et là, le but de ce stage, c'est de partager notre passion avec des enfants pour leur dire tout est possible. À 13 ans, j'avais dit à un ami, on faisait de la gym ensemble, et je lui disais, mais un jour, je travaillerai avec Van Damme. Et lui, il a explosé de rire. 15 ans plus tard, il m'appelle, il me dit, mais tu bosses avec Van Damme. Je me rappelais pas ce que je lui avais dit. Je dis, ouais.
Il avait un pari de gagner, en plus.
Mais non, même pas, parce que le truc, c'est que si on se met pas de limite, on peut aller super loin, en fait. Ouais. Et c'est juste transmettre ça aux jeunes, c'est de leur dire, mettez-vous juste pas de limite, voyez ce que ça donne. Et c'est ce que disait Omar très récemment, c'est dream hard, work harder. Ça veut pas dire qu'il faut pas bosser, mais oui. Permettez-vous d'aller super loin, en fait.
Donnez-vous les moyens, quoi.
Thomas, oui. Petite traduction à la volée.
Rêver dur, mais bosser encore plus dur.
C'est ça. Non, mais c'est bien, c'est fantastique. Un Allez, peu. On va directement. Alors, on continue à parler donc de l'envers du décor. On va parler de maquillage pour la dernière partie de l'émission et on vous remercie déjà avant même de se quitter de tout ce qu'on apprend sur ces métiers dans le domaine du cinéma, sur l'envers du décor. On va continuer à apprendre. On va parler donc du domaine du maquillage cette fois-ci pour la dernière partie de l'émission. Alors, j'ai choisi deux sons pour cette dernière partie. J'étais pas tout à fait objectif. On va les écouter. On se retrouve juste après. Alors ça, c'est Et on enchaîne avec le deuxième.
Say goodbye, creep.
On va garder en tapis le deuxième. Ah, on était revenu en direct. Bah écoutez, c'est pas grave, vous avez découvert l'envers du décor de l'émission, ça tombe bien.
Ça tombe bien, ouais.
Quand je suis en train de parler à Hervé, que je lui donne des consignes techniques. Alors, le premier son qu'on a entendu, c'était directement cette mise en scène particulière qui nous avait touché au sein de l'émission d'Edith Piaf avec Marion Cotillard, qu'on n'arrête pas de charrier là-dessus, et pour sa mort dans Batman, mais quand elle crie Marcel très très fort. Et également, le deuxième, c'était un extrait, donc voilà, c'était compliqué à trouver, évidemment, je vous pose pas la question, mais c'est Dawn of the Dead, le caméo de Tom Savini, qui est un maquilleur ultra célèbre du cinéma des années 70.
Et
voilà, directement ici, un des papes du maquillage à l'ancienne. Alors, comment on peut justement évoquer ces grandes figures qui finalement inspirent énormément de vocations et qui deviennent des références dans le domaine du maquillage, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le concret de ce que peut être le rôle du maquillage d'un maquilleur ou d'une maquilleuse sur un tournage?
Bonne question.
Alors, je vais essayer de la synthétiser. J'ai dû faire, à chaque fois, à chaque émission, je fais une question trop longue.
Mais on aime bien, hein, c'est aussi la marque de fabrique.
Sur vous, c'est pas de bol. C'est pas de bol, c'est quand même pas de bol. Comment on peut influer sur un tournage de la même manière qu'un cascadeur directement quand on est à ce poste-là qui est le maquillage?
Notre champ d'action.
Ouais, par exemple.
Bah, un petit peu comme la cascade, on est là pour concrétiser ce qu'a le réalisateur dans la tête.
D'accord.
Donc, il y a un scénario, il raconte une histoire. Et en fait, tout est faux sur un tournage. On passe notre temps à recréer une réalité, absolument pour tout, que ce soit la lumière, les costumes, le maquillage, les cheveux, enfin, absolument tout. Et le maquillage sert à traduire énormément de choses. En fait, on a tendance à pas le voir. Mm-hmm. Et a priori, un bon maquillage est quelque chose qui ne se voit pas. Mais notre cerveau l'enregistre et on traduit des tas de trucs. On traduit la bonne mine, on traduit la maladie, on traduit des effets, un impact, une coupure. Du sang, la mort.
Apparemment, il y en a qui n'ont pas besoin de maquillage.
Il y en a qui n'ont pas besoin de maquillage, j'espère, de nous. Mais des fois, on les aide.
Quand on fait 50 prises, c'est sûr.
Des fois, on les aide. Des fois, on les aide. Des fois, on nettoie, mais des fois, on les aide.
Tout le temps, on nous aide.
Alors là, j'ai choisi deux exemples qui sont diamétralement opposés. Tom Savini, c'est le maquilleur des premiers Romero. Ouais. Dawn of the Dead, c'est en 78. Il avait créé
des avant-gardistes. Voilà. C'est des gens qui ont inventé.
Ils ont appris un peu sur le tas.
Plein de choses. C'est vraiment des gens qui ont
appris
sur le tas.
Comment on peut les présenter, ces
gens-là? Bah, c'est des gens c'est des inventeurs, en fait. C'est des gens de talent. Mais deux, c'est vraiment des inventeurs. Ils ont mis au point des techniques qu'on reprend tous, en fait. Après, la technique évolue énormément. Via la technique aussi, technique de caméra, il y a plein de choses qui changent, donc on s'adapte. Et puis il y a plein de nouvelles matières qui arrivent, des silicones, plein de choses. Donc entre, bon, je vais remonter un peu loin, mais entre le coton latex et ce qu'on fait maintenant, il y a un monde.
Il y a une grande variété.
Mais encore que le coton latex est utile de temps en temps.
D'accord, on va voir à quoi, mais ça peut être sympa.
Alors,
Théo Savini, il maquillait tous les zombies, hein, avec son équipe, sur les tournages de Romero, qui nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est effectivement, ils ont, quand on découvre les bonus de ces films-là, on voit qu'ils forment des apprentis sur le tas, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, ils créent des matières et des effets. Et c'est passionnant puisqu'on découvre vraiment tout ce qui fait le charme de ces films des années 70-80 où on bricole. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui sur les tournages? Est-ce que dans le domaine du maquillage, on est encore parfois... on dit bricoler, c'est pas du tout péjoratif.
Vraiment bricoler. C'est-à-dire qu'il y a une technique...
On parlera plutôt de création, puisque bricoler, ça sera connoté. Mais est-ce qu'on est encore toujours en train de se réinventer, quoi? D'accord, on bricole. Il n'y a pas de souci.
Des fois, on fait avec les moyens du bord. On n'a pas toujours prévu parce qu'il n'y avait pas de demande ou parce qu'il n'y avait pas de choses de prévu. Moi, j'ai une anecdote sur...
On achète, on prend toutes les anecdotes.
Sur de la cervelle, en fait. On m'a demandé quelqu'un qui se faisait dégommer.
A priori, c'était pour un film français.
Même pas, en fait.
Je tentais.
Même pas.
J'ai fait tapis, j'ai essayé.
Et le réalisateur voulait de la cervelle éclater sur la vitre de la voiture. Chose qui n'était pas du tout prévue ni dans le scénario, ni en préparation de ce film. C'était une série pour Canal, en l'occurrence. Et j'ai improvisé avec ce que j'avais, c'est-à-dire je suis allée à la table régie, il y avait de la banane, des biscottes, j'avais du sang, j'ai mélangé le tout, et finalement ça marchait très très bien.
C'est pas loin de la recette du Gloubi Boulga de Casimir.
Exactement.
Mais effectivement, ça a l'air de marcher. Alors c'est super intéressant, parce que c'est vrai que là on découvre tout ce qui passionne dans le cinéma et qui donne envie d'en toucher, quoi. C'est de la création perpétuelle, quoi. Il y a toujours la remise en question qui fait le sel du cinéma, quoi.
Complètement.
Mais tu viens de dire un mot super important, c'est la passion. Et je crois que ce qui lie toutes ces personnes, c'est aussi d'être des passionnés, en fait.
Oui. C'est clair.
Ah, c'est vraiment ça.
Il en faut. Alors, quels sont parmi les maquilleurs emblématiques? Donc là, j'avais Edith Piaf, qui est pas du tout du domaine de Tom Savini, puisque Tom Savini à côté, ce serait le petit artisan. Qui crée, qui devient passionnant. Est-ce que Edith Piaf, c'est-à-dire le recréer Edith Piaf pour des heures et des heures de maquillage pour Marion
C'était
Cotillard,
magnifique, le résultat, c'est splendide.
Effectivement, donc à l'Oscar également pour ce film-là. Quelle est la deuxième école ici qu'on pourrait aller? On n'est plus dans le bricolage, on est dans de la création sur plusieurs heures. En quoi cet aspect-là du maquillage, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on faisait dans les années 70-80, est également tout aussi passionnant?
C'est fascinant de transformer les gens, en fait, de les amener complètement à l'opposé de ce qu'ils sont. Le film où j'ai eu le plus de maquillage, alors j'avais la chance de travailler avec une équipe formidable de Jean-Christophe Spadaccini et Denis Gastou, c'était pour Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, où on a amené les personnages de bande dessinée dans la réalité. Et il y avait un make-up qui prenait, je crois, c'était 6 heures.
D'accord.
Il y avait 6 heures de maquillage. Il n'y avait que les oreilles du comédien qui étaient à lui. Sinon, tout le reste était...
J'espère qu'elles étaient belles.
Était faux.
Est-ce que tu as eu le temps de voir le maquillage d'Alex Lutz sur Guy?
Non, il faut absolument que je le voie. J'ai vu le résultat.
C'est dingue.
Et c'est Jean-Christophe Spadaccini. Et c'est juste sublimissime. C'est un des plus beaux vieillissements que j'ai jamais vu.
C'est dingue.
Oui, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, pour son film, Guy, Alex Lutz, il raconte l'histoire d'un chanteur fictif qui est, où il se vieillit naturellement.
Complètement.
Pas du tout naturellement, mais ça paraît, le lapsus est amateur, ça paraît tellement naturel que, effectivement, le travail est absolument incroyable. Et là, on parle de films qui vous mettent en gros tous d'accord, que ce soit l'exploitant, le cascadeur ou le maquillage. On est dans Adèle Blanc-Sec, le grand spectacle, le grand public au sens large. Et le film vraiment qui va brasser très très large pour parfois repousser les limites de ce qu'on peut faire. Thomas, est-ce que tu as des petites questions pour nous, pour donner du maquillage?
J'ai réagi. Tout à l'heure, tu as dit que le but, c'est que ça ne se voit pas.
Ouais.
Au final. Mais est-ce que c'est pas frustrant, finalement, que personne ne puisse deviner? Alors, c'est que ça a marché.
C'est l'envers de la médaille. A priori, c'est que ça a raté.
Mais
ça,
justement.
Ça vend la blague. Et l'idée, c'est pas de vendre la blague, c'est de faire rêver les gens. Donc, il faut pousser les choses jusqu'à. Il faut de la subtilité. Y compris dans des choses lourdes, si je peux dire ça comme ça.
Mais est-ce que, aussi, le même type de question, est-ce que tu peux modifier façon de parler, mais donner une autre direction un peu au film, en disant, ce maquillage-là, avec cette lumière, ça ne va pas aller, ou ça ne va pas fonctionner.
On n'a pas des
idées. Il faut absolument aller dans un autre sens.
Est-ce que ça peut arriver sur certaines contraintes techniques ou
vraiment il y a des déceptions en disant j'ai pas été écouté là-dessus?
L'idée, c'est quand même de répondre à une demande, donc c'est de se donner tous les moyens pour pouvoir y arriver. Après, des fois, il peut y arriver qu'il y ait des contraintes techniques qui fassent que ça marche pas, tout à l'heure, tu parlais de quelqu'un de fort, de diminué.
Oui, en préparant l'émission, on se demandait.
Là, après, c'est des effets spéciaux.
Est-ce qu'on vous demande des choses irréalistes au maquillage, aux cascades? Alors, aux cascades, on a répondu. Quand c'est pas possible, on essaie de voir directement, de parler.
Bah, on trouve un autre axe de travail. Mais
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander d'irréaliste à un maquilleur, par exemple, si Thomas, on devait le transformer en Marion Cotillard? Bon, clairement, ici, c'est pas réaliste. Comment le maquilleur pourrait directement répondre en essayant de raisonner les équipes techniques?
On peut dire qu'on va faire un essai. Tout le monde constate que ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Mais... Alors, pour situer nos éditeurs, Thomas a une tête de gros barbu. Voilà. Il serait plus proche de Game of Thrones que de Marion Cotillard. Et donc, l'équipe du maquillage va directement essayer de raisonner les équipes techniques en essayant de proposer un autre angle ou évidemment une autre approche du personnage, de l'éclairage. Parfois, ça peut aller jusque-là.
Bien sûr. Tout rentre en ligne de compte, le costume, l'éclairage. Bien sûr, tout ce qui peut aider à aller dans la direction de ce qu'on veut. On doit servir absolument de tout, en fait.
Donc, on parlait tout à l'heure de coordination, on a des liens avec les autres équipes. C'est-à-dire qu'il y a une équipe cascade, oui. Il y a une équipe maquillage, il y a une équipe chef-op de lumière. Et en permanence,
on
doit...
Sur l'Empereur de Paris, on a beaucoup travaillé avec Grégory en amont, dans le choix des cascadeurs, pour doubler certains comédiens. Donc, voir ce qu'on pouvait faire, comment les transformer, pour les rapprocher au maximum du comédien. Tout ce qui est essai, de perruque, de postiche, de...
Comment ça vous paraît pas parfois, on parle de passion évidemment, mais ça vous paraît pas parfois rébarbatif de devoir être, je dirais, dans la négociation pour mettre en avant vos idées alors que ça s'impose pas forcément tout le temps?
Non, ça fait partie, du boulot, vraiment, complètement.
Oui, puisqu'on parle de négociation pour placer des films parfois, ou pour les laisser plus longtemps, ou pour mettre en avant des idées.
Mais quand t'es investi, quand tu aimes quand tu aimes ce que tu fais, tu te bats pas en fait. Tu vois, tu y vas facilement, tu peux l'expliquer, tu trouves les arguments qui vont être justes. Et si en face, c'est intelligent et que ça va passer, il n'y a aucune bagarre.
Oui, c'est vrai que ça peut se faire de manière tout à fait naturelle. Mais là, on parle vraiment de tournage, parfois d'équipes techniques qui ont plus de bouteilles que d'autres, a priori. Mais est-ce qu'il y a des tournages dans lesquels vous avez senti que ce n'était pas possible, qu'il y avait une ambiance qui ne permettait pas de mettre en avant ce qu'on voulait?
Oui, ça arrive.
Alors, sans citer le nom, on n'est pas là pour se faire des...
C'est plus au début. C'est quand tu te permets pas de refuser certaines choses.
Ah, ça, c'est important.
Et quand tu sais comment t'entourer, quand tu... je veux dire, tu rencontres des personnes. Enfin, là, nous, on s'est rencontrés avec Stéphane sur l'Empereur. Maintenant, on marche ensemble. Enfin, sur le trailer pour les enfants, c'est elle qui nous a fait les costumes. Enfin, elle a des qualités humaines et techniques qui viennent renforcer où nous, on n'est pas au top. Mm-hmm. Donc, du coup, en fait, c'est que des rencontres. Et comment tu vas former ton équipe?
C'est que des familles, en fait.
Oui, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui prennent les mêmes équipes qu'en permanence et qui les engagent, réengagent sur d'autres tournages.
Pour un réalisateur, c'est une plus-value dans le sens où il sait ce qu'il peut demander aux gens.
Il sait où il va.
Déjà, voilà. Donc, et ça, c'est énorme, en fait. Je pense qu'on est là pour le soulager et pour l'accompagner. Donc,
oui, ça aide. C'est une tension en moins.
Quand le réalisateur a trouvé son équipe, effectivement, c'est un vrai souci en moins.
Oui. C'est vrai que ça permet également de comprendre plus facilement comment fonctionne un réalisateur sur un tournage. C'est-à-dire qu'on a l'image encore, peut-être plus en France qu'ailleurs, mais du réalisateur qui est l'artiste au sens propre, mais c'est également un chef d'équipe, un vrai manager. C'est quelqu'un qui doit en permanence passer d'équipe en équipe.
Composer en permanence.
Et qui doit faire valider ses idées également, et parfois les nuancer avec les contraintes qui peuvent s'imposer sur un tournage. Alors, on parle évidemment de maquillage pour la dernière partie de l'émission. Il nous reste quelques minutes. Moi, je voulais pas revenir sur l'exemple qui vraiment m'intéresse ici, qui limite me passionne. On parlait de Tom Savini et des pionniers, hein, vraiment. On disait un bon maquillage, c'est un maquillage qui ne se voit pas. Mais est-ce qu'avec le temps, Tom Savini, on n'a pas la sensation que le maquillage prend limite la place de l'acteur ou des personnages? Alors, c'est sûr qu'ils ont un peu daté. Si vous voyez pas forcément, puisqu'on est en émission radio, c'est des tout premiers zombies, Dawn of the Dead. On mettra quelques extraits sur la page Facebook de l'émission. Mais c'est vrai qu'avec le temps, quel recul on peut avoir sur ces maquillages-là?
Rétrospectivement, oui, c'est des choses qu'on vieillit par rapport à ce qu'on fait maintenant. Mais ça reste quand même une inspiration qui est toujours d'actualité, finalement.
Oui, c'est puisqu'on est en train d'en parler à l'heure actuelle, effectivement, et qu'il a même, lui, percé crevé l'écran, puisqu'il faisait même quelques cascades, d'ailleurs,
comédien pour
Romero. Il a fait énormément de choses, quoi. Thomas?
Oui, j'avais une question aussi en me disant, est-ce qu'il y a une séquence qui a nécessité beaucoup d'investissement qui finalement se retrouve pas à l'écran? Est-ce que ça arrive et est-ce qu'il y a une frustration en disant là vraiment on a.
Ça peut arriver, mais après, en fait.
On a donné vraiment beaucoup, puis.
Comme à Grégory, on est vraiment sur la fabrication d'un film, on participe à ça. Après, il y a des tas de choses qui nous échappent, en fait. C'est. Même en maquillage, ouais. Moi, des fois, le rendu final n'est pas du tout ce que j'ai fait sur l'instant, parce que derrière, il y a une post-production. Finalement, ils font un étalonnage qui n'était pas prévu à la base. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le chef opérateur pour savoir comment.
Alors, chef opérateur, on peut situer, c'est celui qui va coordonner les lumières,
c'est
les positions de
la
caméra.
Lumière, voilà, c'est ça. C'est lui qui crée la lumière et l'ambiance d'un film.
Voilà, directement.
La photo.
C'est un peu l'œil du réalisateur, on peut dire.
Vraiment.
Ou les deux, même.
Oui, des fois. Mais voilà, ça, c'est aussi évolutif. Et après, il y a des choses qui nous échappent complètement. Donc, des fois, il y a des choses qui sont décevantes parce que. Ouais. Il y a des choses où on avait vraiment peaufiné, on était allé sur des détails, sur des choses qui disparaissent absolument complètement, mais bon, c'est le jeu.
Voilà. Alors, on approche déjà de la fin de la mission, ça passe vite, hein, j'espère que c'est pareil pour vous, c'est plutôt bon signe en général. Alors, on parle de l'envers du décor, mais pour terminer, je voulais, en guise de conclusion, vous demander du coup si le fait de toucher le devant de la scène et de voir, on a compris l'intérêt et l'importance de toutes vos professions dans le domaine du cinéma, mais est-ce que ça ne vous donne pas parfois envie de passer dans le devant, c'est-à-dire l'image par exemple de ce que fait pour les cascadeurs Tarantino, où il a même engagé une cascadeuse australienne, je ne me rappelle plus son nom, qui l'a engagée comme actrice. Est-ce que par exemple parfois cette frustration, si elle existe, peut être présente pour vous tous d'être dans le devant, c'est-à-dire d'essayer de créer, de faire partie d'une équipe ou voilà, d'être directement sur l'affiche. Je sais pas pourquoi, parce que ça peut pas créer ce type de vocation.
Si, parce que en fait, si tu te connais et tu sais où est-ce que tu veux aller, tu sais. Souvent, le comédien, il se retrouve quand même très seul. Moi, j'aime bosser en équipe, j'aime être entouré de personnes. Donc, si un jour je devais aller dans une direction, ça serait peut-être plus la réalisation. Parce que si tu arrives à monter une belle équipe, tu peux transmettre un message.
D'accord, oui, je vois.
Et ce qu'on fait avec les enfants, c'est leur transmettre des messages. Et la plupart des films, que ce soit Matrix, que ce soit Harry Potter, que ce soit. Il y a une transmission de trucs qui sont subtils et c'est ça qui est intéressant. Donc, quelque part, en fait, on permet aux gens de rêver, mais on leur donne aussi des notions comment peut-être changer la donne. Dans leur vie, et enfin la pilule rouge et la pilule bleue, c'est est-ce que tu veux rester un automate ou est-ce que tu veux en gros prendre en main ta vie. Bien sûr, ça va être difficile, mais par contre, tu peux tout changer. Ça, on en est là, donc c'est hyper intéressant. Donc, quand tu te connais, je pense oui, peut-être qu'il y en a qui arrivent par la cascade et qui ont envie d'être reconnus. Il y en a d'autres, ils ont envie de créer. Je pense que les portes.
Les portes sont très ouvertes.
Il y a plein de choses à faire dans ce milieu-là, de toute façon.
C'est vrai que ça donne envie. On a compris l'éventail de compétences de l'exploitant au cascadeur.
Les choses se font assez naturellement, en plus. Et généralement.
C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc, c'est un métier qui donne envie. C'est un milieu, en tout cas, qui donne envie et des métiers qui donnent envie. On espère que c'était pareil pour vous devant les postes de radio. Et on va déjà se quitter parce que, comme disait Arnold Schwarzenegger,
I'll be back.
Allez, on revient la semaine prochaine. Alors, on va d'abord vous remercier avant de se quitter pour d'avoir accepté notre invitation à vous trois. C'était très bien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Un grand merci à vous. On a beaucoup appris. Au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.